casseroles qu'elle avait chez elle, les pièces de la machine à café, le brasero, les différents types de charbon de bois, une carte très détaillée de notre cour d'immeuble, le boulevard, le squelette de fer rouillé de l'autre côté des étangs, le jardin public et l'église, la coupe des arbres sur le talus de la voie ferrée, les nouveaux immeubles, la maison de ses parents, les outils que son père et son frère utilisaient pour réparer les chaussures, leurs gestes quand ils travaillaient, et les couleurs surtout. Les couleurs que prenaient toutes choses aux divers moments de la journée. Mais il n'y avait pas que des pages de description. Des mots isolés apparaissaient aussi, en dialecte ou en italien, parfois entourés d'un cercle, sans commentaire. Et des exercices de traduction en latin et grec. Et des passages entiers en anglais sur les boutiques du quartier, les marchandises, la charrette pleine de fruits et légumes qu'Enzo Scano déplaçait de rue en rue tous les jours en tenant son âne par le licou. Et beaucoup de réflexions sur les livres qu'elle lisait et les films qu'elle voyait dans la salle paroissiale. Et de nombreuses idées qu'elle avait défendues dans ses discussions avec Pasquale et dans les conversations que nous avions ensemble, elle et moi. Bien sûr, le style était inégal, mais quoi que Lila invente dans ses écrits, elle était capable de donner à tout un tel relief que même dans les pages écrites à 11 ou 12 ans, il n'y avait pas une ligne que je trouve infantile. En général, ses phrases étaient d'une précision extrême, sa ponctuation très soignée et sa graphie élégante, telle que Madame Oliviero nous l'avait enseignée. Mais parfois, comme si une espèce de drogue avait envahi ses veines, Lila ne semblait plus pouvoir maintenir l'ordre qu'elle s'était imposé. Alors tout s'emballait, ses phrases prenaient un rythme frénétique et la ponctuation disparaissait. D'ordinaire, elle retrouvait sans tarder un rythme paisible et clair. Mais elle pouvait aussi s'interrompre brusquement et remplir le reste de la page de petits dessins d'arbres tordus, de montagnes arrondies et fumantes ou de visages patibulaires. Je fus saisie par son sens de l'ordre comme par son désordre, et plus je la lus, plus je sentis que j'avais été trompée. Que de travail derrière la lettre qu'elle m'avait envoyée à Ischia, il y avait des années de cela. Voilà pourquoi elle était aussi bien écrite. Je remis le tout dans la boîte en me promettant de ne plus céder à la curiosité. Mais je ne tins pas longtemps. Ces cahiers dégageaient la même force de séduction que Lila diffusait autour d'elle depuis qu'elle était petite. Elle traitait le quartier, les membres de sa famille, les Solara, Stefano, tous les gens et toutes les choses, avec la même impitoyable précision. Et que dire de la liberté qu'elle prenait avec moi, avec ce que je disais et pensais, avec les personnes que j'aimais et même avec mon physique. Elle avait fixé des moments qui pour elle avaient été décisifs, sans se préoccuper de rien ni de personne. On y trouvait intact le plaisir qu'elle avait éprouvé quand à 10 ans elle avait écrit ce petit récit, La fée bleue. On y trouvait tout aussi vive sa douleur parce que notre institutrice, Madame Oliviero, n'avait pas daigné dire un mot de ce récit et l'avait complètement ignoré. On y trouvait sa souffrance et sa colère parce que j'étais allée dans le secondaire sans me soucier d'elle, en l'abandonnant. On y trouvait l'enthousiasme avec lequel elle avait appris la cordonnerie, son sentiment de revanche qui l'avait poussée à dessiner de nouvelles chaussures et son plaisir à réaliser sa première paire en compagnie de son frère Rino. Voilà la peine, quand son père Fernando avait jugé que les chaussures étaient mal fabriquées. Il y avait de tout dans ces pages, mais on y lisait surtout sa haine envers les frères Solara, la détermination féroce avec laquelle elle avait repoussé l'amour de l'aîné, Marcello, et le moment où elle avait décidé, à l'inverse, de se fiancer avec le doux Stefano Caracci, l'épicier, qui par amour avait voulu acheter la première paire de chaussures qu'elle avait réalisées en jurant qu'il la garderait toujours. Ah, cette belle période où à 15 ans, elle s'était sentie une petite dame riche et élégante au bras de son fiancé, qui seulement parce qu'il l'aimait, avait investi des sommes importantes dans la fabrique de chaussures de son père et de son frère, les chaussures de marque Cerullo. Et toute la satisfaction qu'elle avait éprouvée. Les chaussures qu'elle avait imaginées et qui étaient dans une large mesure devenues réalité. Une maison dans le quartier neuf, un mariage à 16 ans. Et les noces fastueuses qui avaient suivi. Comme elle s'était sentie heureuse. Et puis Marcello Solara, en compagnie de son frère Michele, était apparu au beau milieu de la fête,